Moi, depuis le début, même quand j'étais sur des études plus littéraires, j'ai toujours envie de créer quelque chose, de construire quelque chose, de monter une entreprise ou une association, quelque chose de similaire. J'avais envie de faire ce côté, avoir un impact positif sur le monde qui m'entourait et construire quelque chose avec une certaine pérennité, embarquer des gens avec moi. Donc voilà, j'avais cette envie-là, un peu au fond des tripes, souvent on voit ça, je trouve, chez les entrepreneurs, mais je ne savais pas quoi.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Julien, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Bonjour Elliot, merci de me recevoir. Ça va très
Merci
bien?
à toi.
Ouais, ça va super.
Super. Est-ce que tu pourrais commencer cet épisode par te présenter et présenter ce qu'est Bidis, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Julien Huelvent, je suis le CEO et l'un des fondateurs de Bidiz. Pour commencer par moi, ce sera plus court. J'ai du coup fondé Bidiz en 2015. Avant ça, j'ai plutôt une expérience dans des boulots terrain, dans des ONG, donc rien à voir. Et avant, j'ai plutôt une formation littéraire. Moi, je suis plutôt de cette école-là. La philo, l'histoire, le latin, tout ça. Donc c'est mon background, un peu mon socle. Donc j'ai toujours fait pas mal de choses différentes. J'ai un parcours assez sinueux du coup pour arriver à la fin à monter une entreprise dans le domaine de la formation. Donc voilà pour moi. Après si tu as d'autres questions, je répondrai avec plaisir. Et pour présenter Bidiz, donc Bidiz c'est une plateforme de formation aujourd'hui qui est vraiment spécialisée dans la formation, notamment des collaborateurs terrain. Et l'idée, c'est de travailler sur des formats qui vont être très captivants, parce que c'est des populations qui sont très très difficiles à former, très captivants, qui peuvent s'inscrire dans le quotidien, dans le travail, qui peuvent être construits aussi autour de connaissances très concrètes, avec une logique hyper participative, puisque c'est aussi des collaborateurs qui ont l'habitude du peer learning, qui ont l'habitude d'apprendre ensemble en communauté, donc on s'appuie aussi beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est pour ce qu'on fait. On vient du coup du monde de la formation, comme je le disais, depuis 2015. Avant, on a fait des choses très différentes avec, quand je dis on, c'est mes associés. C'est une belle success story, puisqu'on a gravi les échelons petit à petit, et aujourd'hui on forme environ 150 grands groupes et grosses ETI, on va dire, c'est nos deux cibles. Donc on fait par exemple toute la formation de chez Orange, de chez Stellantis ou RATP. Donc là on est sur des populations qui peuvent atteindre
Ce qui représente combien de personnes, 150 grands groupes, ça veut dire quoi?
150 grands groupes, on doit être sur 2 millions d'utilisateurs à peu près aujourd'hui. Et après, pour te dire, des grands groupes comme Orange, on peut déployer sur 150 000 collaborateurs, Stellantis autour de 100 000, on va dire, un RATP, 50 000 en France. Et après, il y a une branche RATP Dev où il y a aussi pas mal de présence à l'étranger. Donc, on doit approcher les 100 000 aussi. Voilà, donc ces gros volumes-là, on aime beaucoup. Et on aime beaucoup aussi les grosses ETI sur lesquelles on va être vraiment une plateforme de formation unique. Je peux te citer par exemple Etam ou Promode ou Amorino. Donc c'est des grosses ETI qui ont plusieurs milliers de collaborateurs, beaucoup de staff terrain évidemment, et avec lesquels on aime aussi bien bosser. Donc on a ces deux cibles-là là-dessus. Et on est aujourd'hui une cinquantaine chez Bidiz à travailler sur ces sujets-là. On va être encore plus à l'avenir. Et voilà, situé à Paris pour l'instant. Et voilà pour la société dans les grandes lignes, on va dire. Je
Génial.
pense qu'on
Bah, écoute,
rentrera dans le détail.
merci pour ces grandes lignes, cette belle présentation. On va reparler de Bidiz, évidemment, hein, de comment ça fonctionne, de qu'est-ce que c'est, pourquoi vous le faites exactement, et qu'est-ce que le peer learning, etc. Mais avant ça, un petit truc là qui m'a fait tilter. Tu as dit que tu avais une formation littéraire de base. Je trouve ça assez intéressant parce que d'habitude, on se dit toujours CEO de start-up, il faut avoir fait une grande école de commerce ou limite être développeur, et puis après, on code un truc, et puis on finit par monter la boîte. Ça a été quoi le parcours et comment tu t'es retrouvé justement à fonder Bidiz?
Oui, alors on est plus nombreux que ce qu'on pense à avoir un background plus littéraire. Comment j'arrive là? Alors moi, c'est vraiment mon socle. Hein. Tout ce que j'apprends encore aujourd'hui est lié à des méthodes et à une culture générale autour plutôt du domaine littéraire que scientifique. Mais comment j'en arrive là? Bah, à la base, je fais plutôt un bac scientifique parce que je ne sais pas trop quoi faire. Et puis parce que ça va globalement à peu près dans toutes les matières. Donc je fais un bac scientifique là-dessus. Après, par contre, ouais, ce qui me passionnait, c'était la philosophie, l'histoire, des matières comme ça. Donc je pars sur une prépa littéraire. Rien à voir. Et là, voilà, c'est la grosse éclate pour moi. J'adore ce que je fais. J'ai des profs qui sont incroyables. Des pontes dans leur domaine et surtout de grands pédagogues. Voilà, moi, c'est mon socle là-dessus. Du coup, en parallèle, j'ai aussi diplôme d'histoire et de géo plutôt, mais ça, c'est lié aussi à la prépa où tu peux faire cette espèce de double cursus. Et après, j'ai quand même fait un rapide passage par une école de commerce. Mais bon, je considère pas que c'est quelque chose qui m'a réellement apporté dans la partie entrepreneuriale, en tout cas. M'a appris à comprendre à peu près comment fonctionnait un grand groupe. Ça m'a appris à travailler en groupe, c'est quand même important aussi. Mais voilà, si je dois revenir à une chose, c'est plutôt la partie littéraire. Et j'ai continué à me former plutôt sur cette partie littéraire après. Et puis, je suis parti bosser plutôt dans le secteur ONG au tout début. Là encore, pas trop de rapport avec les startups pour le côté business. Mais oui, on est plusieurs à avoir fait ça. Et je pense que c'est un bon. Ça peut faire de bons fondateurs et de bons CEO derrière. Parce que, alors certes, on est moins ingé ou commerce avec un profil, on va dire, très. Soit ultra cartésien, soit très tableau Excel ou business. Mais on a aussi. Il y a plein de qualités qu'on développe sur le côté littéraire. Il y a l'esprit de curiosité, le fait de creuser certains domaines, la rhétorique, savoir simplement voilà, bien s'exprimer, convaincre les gens. Dans la partie commerciale, c'est quand même extrêmement important. Et puis dans la philo, il y a quand même cet aspect. Vouloir réfléchir sur des problématiques et les résoudre. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup ça. Ouais, moi j'y ai puisé toutes mes compétences d'origine et j'y reviens toujours de même.
Et donc, quelle est la philosophie de Billy? À quel moment tu t'es dit, il faut une application mobile pour se former? Et puis, alors maintenant, tu vas nous dire que c'est beaucoup plus, hein, évidemment, mais au début, c'était ça. Comment vous êtes arrivé à l'idée et comment vous avez démarré?
Alors, bonne question. Je te fais tout le cheminement parce que souvent on raconte plutôt la fin de l'histoire. Il y a le côté overnight success, mais on n'a pas le début. Je pense que c'est ça qui va le plus t'intéresser. Comment on en arrive là? Déjà, moi, depuis le début, même quand j'étais sur des études plus littéraires, j'ai toujours envie de créer quelque chose, de construire quelque chose, de monter une entreprise ou une association, quelque chose de similaire. J'avais envie de faire ce côté. Avoir un impact positif sur le monde qui m'entourait et construire quelque chose avec une certaine pérennité, embarquer des gens avec moi. Donc voilà, j'avais cette envie-là, un peu au fond des tripes, souvent on voit ça, je trouve, chez les entrepreneurs, mais je ne savais pas quoi faire. Je pars d'abord, comme je te disais, bosser pour le secteur des ONG, domaine que j'ai adoré. J'ai bossé pour une ONG qui s'appelle AgriSud, si jamais les gens cherchent à faire des dons ou à bosser. Superbe ONG qui travaille dans le domaine agricole, donc rien à voir encore avec ce que je fais aujourd'hui. Mais sur lequel j'ai beaucoup appris à être directement sur le terrain, à être en prise avec des vraies problématiques, à être tout seul, à gérer des choses. Donc ouais, c'était assez costaud. Et à l'issue de ça, je me suis dit, soit je continue à travailler dans le secteur des ONG que j'adore, mais je montrerai pas quelque chose, je ne montrerai pas une entreprise ou autre. Soit je me dis, bon, si j'ai vraiment envie de faire ça, et dans ma tête c'était assez clair que c'était plutôt un côté, je cherchais une logique entreprise rentable qui s'autofinance, etc. Il faut que j'aille voir à peu près comment ça fonctionne dans le monde de l'entreprise. Donc à ce moment-là, je reviens du Sénégal, puisque c'était au Sénégal à l'époque, et je viens bosser pour une start-up parisienne qui s'appelle Evenium, qui gère plutôt de la tech pour les gros événements pro. Et je le fais pour faire mes armes, en quelque sorte, pour me dire la meilleure manière de savoir comment ça marche. C'est pas d'aller faire un master sur le sujet, en tout cas à mon sens. Master entrepreneuriat, j'avais rien trouvé qui me bottait vraiment à ce moment-là. Je sais pas si ça a évolué depuis d'ailleurs. Et donc je me dis, je vais regarder. Donc je suis rentré dans cette entreprise, j'ai fait vraiment du support niveau 1, quoi. Madame Machin qui appelle au téléphone, qui dit ça marche pas, cliquez là, ok, ça marche, merci. J'ai commencé vraiment comme ça. Puis je suis monté petit à petit jusqu'à, voilà, on va dire chef de projet, un peu slash un peu chef de produit sur des nouveaux produits qui se lançaient très mobiles. Un peu essuyer les plâtres pour cette entreprise-là. Et puis, du coup, j'allais voir aussi un peu comment ça se passait dans chaque équipe. Et donc, c'est là que j'ai rencontré mes futurs associés. Donc, Rémi, Morgan et Quentin étaient dans des équipes différentes, côté opération, côté développement, côté UX. Et donc, on se rencontre. Et en fait, on partage à ce moment-là une passion, un hobby en tout cas, c'était de faire tout ce qui était MOOC. Tu sais, c'était le début des Open Classroom, Udacity, EDX, Coursera, surtout Coursera au début. Et on faisait pas mal de trucs comme ça en disant, ah, c'est génial, j'ai accès au compte à des cours de Stanford sur l'IA, c'est complètement ouvert. Enfin, aujourd'hui, ça paraît normal, mais à l'époque, c'était fou. Et donc, on faisait chacun des trucs dans nos domaines et on se disait, ah, ce qui est quand même difficile, c'est que c'est des cours qui sont hyper longs. C'est souvent des choses sur plusieurs heures de visionnage et après de travaux derrière sur plusieurs semaines. Je crois que c'était sur 6-7 semaines. Fallait corriger les rendus en anglais des autres. Donc, ouais, c'était costaud. Et en fait, on n'avait jamais vraiment le temps de terminer. Parce que quand tu as un job à côté, c'était compliqué de faire ça. Donc, on était un peu frustrés de ça. Et en plus, on retenait pas grand-chose parce que finalement, comme tu voyais le truc une fois et puis après tu révisais pas, normal, tu dis, ah tiens, j'ai passé des mois sur ce sujet, il me reste quoi? Pas grand-chose. Et à ce moment-là, on se dit tous les quatre, bah, en fait, ce qui manque, c'est d'adapter cette connaissance sur un format quotidien et de se dire, on en fait un petit peu tous les jours et notamment dans des moments perdus de la journée. Donc, on a pensé au transport en premier et de se dire, voilà, plutôt que d'aller bosser le soir très longtemps sur des MOOC, on va se dire, on va lancer un compagnon d'apprentissage mobile, parce qu'évidemment, dans les transports, tu ne vas pas sortir ton ordi. Donc, on va le faire vraiment smartphone. On va le faire penser spécifiquement pour ça au début. Et on va se dire, OK, tu as 20 minutes devant toi. Tu veux apprendre des choses sur l'IA ou tu veux apprendre des choses sur la culture grecque ou peu importe. Ben, l'application va de sortir du contenu pour cette durée-là et très interactif parce que le crash test qu'on faisait, c'était de se dire, tu prends la 13 un lundi matin. Et t'es comme ça contre la barre et tu peux quand même apprendre des trucs. C'était vraiment le vrai crash test qu'on faisait, puisqu'on bossait sur les 13. Et donc, on a commencé ça comme ça. Un peu aussi en réaction tu vois, à l'époque un peu Candy Crush, en se disant, en fait, dans les transports, on faisait tout ça, du Candy Crush ou autre. On se disait, bah, finalement, on t'apprend rien, alors on t'en met ça à profit pour apprendre des choses. Donc, le premier truc qu'on lance, c'est ça. Bidis compagnon d'apprentissage mobile. Plutôt grand public, plutôt connaissance hyper large. Phase 1, on fait plein de concours de start-up. Tu as dû connaître ça aussi, c'était le début de France Digital ou des trucs comme ça. Donc il y avait des pitchs un peu partout en France. Donc, tu venais voilà, t'affronter d'autres start-up à pitcher. Tu pitchais dans des jurys d'illustres entrepreneurs et voilà, d'autres jurys. Et on fait ça. En fait, on perd à chaque fois de ces concours-là.
D'accord.
Mais à chaque fois, il y a toujours un membre du jury qui vient et qui nous dit. Ah, c'est super votre truc. Alors, je n'ai pas voté pour vous, mais moi,
Je suis en bitouille.
je suis directeur d'innovation BNP ou je suis responsable de produits EDF ou autre. Enfin, il y a souvent des grands groupes comme ça. Vous ne voulez pas faire ça pour nous en interne dans la boîte parce qu'on a des plateformes de formation, mais c'est souvent très long. On a du mal à engager notamment la jeune génération. Donc, c'est un vrai sujet pour nous. Est-ce que vous ne pouvez pas le faire en interne? Donc, comme tout bon start-upper qui se respecte, au début, on dit non, 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 nous, c'est que du grand public et c'est ça ou rien. Puis au bout d'un moment, franchement, c'est arrivé 6-7 fois d'affilée. On se dit, attends, c'est des gros volumes. Donc, c'était toujours des très grosses boîtes. Donc, on est quasiment sur un impact presque grand public vu les volumes qu'il y a. C'est du B2B et on sait bien faire parce qu'on venait tous de la startup dont je t'ai parlé, Venium, et on maîtrise bien la vente B2B, le fait de répondre aux exigences techniques et de sécurité, enfin tout ce qui fait que tu peux travailler avec un grand groupe, et ben essayons. Et puis on prend ce pivot-là, on fait un produit un peu hybride au début entre les deux, grand public et business, et puis finalement on part sur un produit totalement business, mais ce qui fait qu'on signe très vite en fait des gros comptes. J'ai dit, le premier du coup c'était BNP, le deuxième c'était EDF, donc les juristes cités, et c'est arrivé assez vite quoi. Je pense qu'on prend cette décision en janvier. On a un MVP qui sort en janvier. En mars, on avait signé le premier groupe quoi, sur ce sujet. Alors, pas des très gros volumes tout de suite, hein, mais ça va petit à petit. Mais on avait tout de suite des très grands noms, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. D'ailleurs, nouveau format d'apprentissage mobile, du coup, à destination des collaborateurs.
Ok. Donc ça, j'imagine, c'était la première proposition de valeur. Maintenant, il y a d'autres sociétés qui proposent aussi de faire du mobile, j'imagine, d'ailleurs des concurrents qui ont forcément
Ouais, tout
dû
à fait.
émerger. Comment aujourd'hui vous vous différenciez? Qu'est-ce que vous avez ajouté comme brique et sur quoi vous vous orientez? Pour toi, c'est quoi le futur après le mobile ou avec le mobile?
Il y a avant et déjà maintenant, si vous savez que ça fait déjà quelques années. À ce moment-là, nous, ce qui va faire la grosse différence, donc on fait ce format très mobile, très ludique, tu vois. Nous, on a appelé ça capsule de connaissances, maintenant c'est un terme qui est très, très utilisé. Je ne le revendique pas forcément, hein, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas trop, je ne l'ai jamais entendu. Maintenant, c'est très large dans la formation. Donc capsule, module, on va dire, autour de 5 minutes max, avec beaucoup d'interactions. Donc ça, c'était le premier point. Beaucoup de gamification, vraiment l'antithèse du cours magistral e-learning descendant de 45 minutes où tu passes des slides et t'as juste envie de mourir en fait. Donc
la gamification, c'était un élément important ou est-ce que c'est du nice to have?
C'était tout de suite hyper important, mais pas de la gamification, disons des petits jeux avec des trucs qui volent et tout. C'était parce qu'on s'adressait quand même à des populations sérieuses, entre guillemets.
Il faut rester un peu pro.
Et donc c'était plutôt les mécanismes derrière. De se dire, tu vas gagner des points, tu vas gagner des badges, tu vas pouvoir challenger un collègue. École Duolingo, tu vois, pour nous. Vraiment de se dire, on va pas faire un serious game. Par contre, les mécanismes d'engagement peuvent être de la gamification. Après, ça s'active ou ça s'active pas en fonction des clients.
Donc, toujours dans l'objectif de faire en sorte que la personne reste sur l'application pour apprendre.
Reste, de la rétention. Programme, ritualise ses temps d'apprentissage. C'est des sujets qui sont encore présents aujourd'hui. C'est vraiment hyper important. Donc, il y a ce format-là. Et en fait, on a des retours users parce que dès le début, on a eu la culture BDIS de se dire, on va faire des groupes utilisateurs avec les gens qui nous utilisent le plus, les gens qui nous utilisent le moins. Pas les gens qui nous ont acheté, mais vraiment leurs users finaux. Et on a des retours réguliers de « Ah, c'est super votre format capsule. Moi, je fais ça à la pause café, le soir en rentrant chez moi. » Des fois, ils nous disent « Dans les réunions où je m'ennuie, ben, je le fais. » Et par contre, est-ce que moi, je ne peux pas créer ma capsule pour mes collègues parce que j'ai un savoir très localisé ça n'intéressera pas le service formation parce que c'est trop petit, entre guillemets, mais je passe mon temps à le répéter et c'est sur un wiki quelque part, mais ça serait cool de l'avoir en capsule. Et pareil, on a ces retours régulièrement et on se dit, OK, deuxième move hyper intéressant, on intègre à BDIS un outil auteur qui permet aux gens de créer leur capsule et qui donne la main à l'entreprise pour le faire. Mais la baseline était, tu sais faire un post LinkedIn, tu sais faire une capsule BDIS. C'était la règle qu'on s'était mis, donc on a beaucoup bossé sur ce dessus parce que c'était très dur à mettre en place. C'est la phase qui cartonne parce que on venait pas avec mes associés du service ou du domaine de la formation, donc on s'était pas rendu compte que ce qui existait à ce moment-là pour créer des contenus de formation, c'était plus soit des outils très poussés, on va dire niveau Photoshop, mais pour les services formation, et c'était très léché, super comme contenu et tout, mais il fallait un séminaire de 4 jours pour apprendre à le faire. Ou bien des trucs pas ouf, du style, il fallait importer des fichiers Excel en mettant des noms dans les cellules.
Galère.
Galère. Et nous, on ne voit pas ça, donc on fait un truc en se disant, qu'est-ce qui ferait que nous, ne serait-ce qu'en tant que manager, on crée des capsules. On sort ça, et là, c'est l'envolée, on accélère, on signe Leroy Merlin, je crois, en gros compte, assez vite, mais en global, là, pour le coup. RATP, c'est pareil, on les signe, et puis ça devient assez gros, assez vite. Voilà, du gros groupe comme ça, qui nous dit, ah oui, mais là, en fait, vous nous changez la vie parce que d'habitude, soit c'est très long et fastidieux, soit on passe carrément par des agences externes pour le faire et on n'a même pas la main dessus. Et à chaque fois qu'on veut modifier une virgule,
ça coûte cher.
Et c'est bon, t'as compris. Et donc là, ouais, on volait de ça. Donc c'est ça qui nous fait vraiment la trajectoire, leader autour de cette partie mobile learning France et un peu Europe. Et puis même avec quelques contrats d'ailleurs US ou autres qu'on vient de chercher sur ces logiques-là. Et puis la phase d'après, on a commencé à encore se différencier, je dirais que c'est le Covid. Le Covid nous fait réaliser deux choses. Alors déjà, on travaille énormément pendant cette période-là. Et à la fin, pareil, on fait nos réunions de feedback avec nos clients, là pour le coup, qui nous disent, bon, en fait, on a une plateforme de formation traditionnelle, donc ça s'appelle des LMS, pour ceux qui ne sont pas du milieu, pour Learning Management System, c'est juste une plateforme de formation. On a des gros éditeurs qui nous ont mis des choses en place et on vous avoue. Et en fait, on a eu quasiment 100% d'utilisation chez vous et quasiment pas d'utilisation sur ces grosses plateformes. Donc, on a envie de prendre que vous, mais par contre, il faut devenir une plateforme globale, pas que mobile. Donc, c'est à ce moment-là où on fait une première phase d'investissement perso, hein, pour le coup.
Et là, c'est un sacré travail. Là, ça demandait combien de temps d'arriver à l'équivalent de ce qu'ils avaient ?
Ça prend un an. Après, on a en fait la... Quand tu sais développer quelque chose de très bon en mobile, c'est plus facile de développer une plateforme web derrière au global.
Et puis, vous aviez déjà des bases quand même.
Forcément. On avait déjà des bases. Et l'inverse est beaucoup plus compliqué. Tu as fait du front web et tu veux faire un truc pertinent en mobile, c'est vachement plus compliqué. Donc, dans notre sens, je dirais que ça prend une bonne année. Et puis, du coup, on a des groupes. Je crois que le premier, c'était Picard, merci à eux, qui nous dit, OK, je bascule tout chez vous et vous êtes plateforme globale. Donc, ça, c'est le premier truc qui change. sur cette période-là. Du coup, on devient plus puissant, entre guillemets, que des acteurs purement mobile learning, puisqu'on est une plateforme vraiment globale. Et puis, le deuxième truc, c'est que, bah, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une phase du Covid où nous, on restait bosser en télétravail chez nous, mais par contre, toutes les populations dans les supermarchés, dans les transports,
Oui, heureusement, on
les
avait besoin.
restos, revenaient bosser, sont revenus bosser vite, un peu en urgence. On a appelé ça, c'est les premières lignes ou les essentiels à ce moment-là. Et ce qu'ont pas vu les gens, c'est qu'en fait, ils sont revenus super vite, enfin, de manière, pas dire précipité, ce serait pas le mot, mais pressé, on va dire. Sauf qu'il a fallu reformer tout le monde à des nouveaux process de travail, parce que tu vas pas, par exemple, faire une maintenance sur un wagon à quatre, il faut de la distanciation. Donc, il fallait reformer tout le monde à des process de travail sans avoir droit forcément de les mettre trop nombreux dans des salles de formation. Un casse-tête pour les entreprises. Et nous, à ce moment-là, bah, en fait, on est là. Et on a cet outil qui permet de vite envoyer des contenus de formation, hyper ludiques, que les gens assimilent bien. Et c'est là on devient très, très, très en contact avec les populations de terrain. Et on se rend compte qu'on adore, en fait, c'est ce qui nous plaît le plus. Alors, on aime bien former aussi des cols blancs dans une tour à la Défense, tu vois. Mais le terrain, il y a quelque chose de. Bah, déjà, c'est une population qui est moins bien formée que les autres, qui a moins accès à des outils digitaux, qui a moins accès à de la formation. Ils se forment en moyenne 2 fois moins, quand même, en France. Ils ont des taux d'employabilité du coup qui baissent par rapport à ça. Et alors qu'il y a une vraie tradition presque de l'apprentissage pair à pair, ou ne serait-ce que de se passer des connaissances. Donc voilà, on aime beaucoup et on devient un peu obnubilé presque par ces collaborateurs-là, et en se disant il faut qu'on arrive à leur donner le meilleur service possible là-dessus. Et en faisant ça, bah, on a un avantage aussi concurrentiel hyper important parce que. Bah, elles sont mal adressées depuis des années. C'est des petites choses, mais tu vois, quand tu peux accéder à un contenu en scannant un QR code, par exemple, bah, si tu es sur un chantier avec une machine, c'est vachement plus facile que d'aller chercher un truc. Si tu es un franchisé dans la restauration, bah, si tu peux directement donner un accès en 4 secondes, honnêtement, à un nouveau collaborateur, sans que ça passe par des logiques complexes de la SIRH ou autre, tu as aussi un gros avantage. Donc, c'est plein de petites choses. Et puis nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc voilà, ça c'est la dernière phase où on a beaucoup d'avantages par rapport au marché, en essayant.
Et tout ça ne s'applique pas dans d'autres grands groupes de cols blancs. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est juste une stratégie de dire on commence par ça, puis on va aller là-bas? Ou est-ce qu'il y a vraiment une différence et en fait vous faites distancer par d'autres acteurs qui se focalisent justement à l'inverse peut-être plus sur eux? Est-ce que l'usage du mobile est moindre? Qu'est-ce qui explique que vous êtes allé sur le terrain? Parce que je comprends qu'il y a des choses à faire pour aller vers le terrain. Est-ce que ça vous empêche d'aller pour autant vers le reste?
Non, ça ne nous empêche pas. Alors après, puisque là on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est aussi la science d'être concentré sur quelque chose, côté focus, quoi, qu'on dit. Donc, faut pas s'éparpiller. Donc c'est vrai qu'on va rester assez spécialiste quand même du terrain. Après, ce qui est magique, c'est que, alors déjà, il y a des cols blancs collaborateurs terrain. Un de nos gros clients, par exemple, c'est Groupama. Et Groupama, ils nous disent toute la méthode et la pédagogie qu'on a mis en place pour voilà, je sais pas, des gens en resto, chantier ou autre, ou des visiteurs médicaux, par exemple, qui sont aussi des populations de terrain. En fait, ça marche hyper bien pour des boîtes comme Groupama parce qu'elles sont éparpillées partout sur le territoire français. C'est des boutiques, en fait, finalement. Tu vois, donc ils vendent des produits financiers, mais ils vendent à des gens voilà, qui sont derrière un bureau, mais qui sont en fait dans une boutique. Donc, les logiques d'accueil client et autres sont les mêmes que dans des groupes enfin, dans des. C'est pas exactement la même chose que dans les groupes de luxe, c'est-à-dire, mais il y a un besoin aussi à ce niveau-là. Et
Bien
c'est des
sûr.
cols blancs, terrain. Donc ça s'applique aussi là-dessus. Et le truc encore mieux, c'est que la pédagogie qu'on a mise en place, honnêtement, qui est très, très inspirée de gens terrain, c'est pas nous qui l'avons inventée, elle marche tellement bien, et notamment sur des logiques d'engagement, hein, et de complétion. On est à plus de 90% de taux de complétion sur nos contenus. Moyenne française, alors j'ai des données qui datent un petit peu parce que c'est plutôt du 2019-2020, mais c'était 10% en France. Donc on a des taux de complétion qui marchent très bien. Donc toute cette méthode-là, en fait, elle marche aussi sur du col blanc. Et on a des cabinets de conseil, par exemple, et des grands, qui nous utilisent aussi maintenant pour leur col blanc. Et ils savent que voilà, on est une solution terrain, mais ils nous disent bah, ça marche hyper bien dans nos populations, donc on va pas se priver, donc peu importe que vous soyez terrain, pas terrain. Et ça, moi, j'y crois beaucoup pour l'avenir. Je pense que le terrain va beaucoup inspirer le siège. Alors que pendant des années, ça a été le siège qui imposait au terrain. Et je pense que notamment sur la formation, mais pas que, le terrain va beaucoup influencer sur le site. Voilà.
Oui, alors avec 2 millions d'utilisateurs, tu as forcément des stats intéressantes à me donner. Alors, tu les as peut-être pas de tête, mais au moins, tu auras peut-être les tendances sur la modalité, enfin, les modalités pédagogiques qui marchent bien, parce qu'il y a des principes comme la gamification, la collaboration, la compétition, ok. Mmh. Mais à la fin, il y a quand même un contenu. Il doit y avoir des images parfois, du texte, des vidéos, peut-être même des formats audio. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que c'est un mix? Comment tu conseillerais de créer un petit module de formation? Qu'est-ce que toi, tu mettrais dedans?
Il y a plein de questions dans tes questions.
Comment plein de questions, tu vois.
Déjà, je conseillerais de demander aux collaborateurs terrain qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui marche bien. Donc là, tu vois, je discutais avec le responsable formation, le directeur formation d'Amorino, que j'aime beaucoup sur cette logique-là, Kevin, et lui, il a même choisi l'outil par le terrain. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait son AO tout seul
à appel d'offres.
Dans du siège. Il a mis dans les mains des gens dans les restos, je pourrais dire ça. Donc ils appellent ça gelato artiste, ceux qui font des glaces. Et alors, voilà, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc d'abord, demander de quoi ils ont besoin. Après, le deuxième axe, c'est la variété. Il faut être sur une logique, il faut avoir des formats et des outils qui vous permettent d'aller piocher dans des bibliothèques autour d'une cinquantaine d'interactions possibles, je pense. Donc ça peut être du quiz classique, pourquoi pas, ça peut être encore là, mais ça peut être du hotspot avec des systèmes de vie, ça peut être des cartes à gratter, ça peut être des swipe cards, il faut plein de trucs différents. Aujourd'hui, l'utilisateur, il ne veut plus une modalité la même tout le temps et simple, il faut lui apporter de la variété. Je pense que c'est important. Et après, parmi les choses que tu as dit, ce qui marche bien dans ce que j'ai relevé l'année dernière, on fait toujours pas mal de stats en fin d'année. Il y a le contenu vidéo, évidemment. Vidéo gestes métiers, c'est des trucs qui ont vraiment bien tourné l'année dernière. Format podcast aussi, on a vu. Nous, c'est pareil, on a ce format-là et on voit que ça fonctionne bien. Ça suit un peu la trend des applis grand public. Hein, et nous, c'est ce qu'on dit souvent, nos vrais concurrents, c'est pas les autres plateformes de formation. C'est Insta, c'est TikTok, c'est Snap, c'est l'application L'Équipe. Voilà, c'est toutes ces logiques où qui captent très bien l'attention des users. Donc, il suffit de regarder là-dedans ce qui marche. Les stories, tu vois, le côté story, mais dans la formation, ça marche bien. Le côté, on fait des trucs ensemble. Nous, on a par exemple une fonction qui s'appelle le live, où on peut jouer tous ensemble un contenu de formation et se challenger. On va se dire, on est cinq, on va suivre un contenu sur le nouveau produit que lance un restaurant. On va le jouer, on va répondre au jeu en même temps, on va voir qui gagne le plus de points, qui passe devant l'autre, etc. Ça, ce côté interaction temps réel fonctionne bien aussi.
Ok, super, très clair. Alors, autre petite question qui me venait à l'esprit, c'est là on a parlé de terrain, on a parlé de grands groupes. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas encore des applications mobiles pour apprendre à l'école, que ce soit à l'école primaire ou même dans les grandes écoles? À l'école primaire, on pourrait peut-être se dire qu'il n'y a pas de téléphone à la limite, mais dans les universités, écoles de commerce, il n'y a pas de raison, a priori. Quelle est la raison selon toi?
Le cycle de vente. Je pense qu'il y a une volonté des étudiants et des élèves, il y a une volonté du corps enseignant. Ce qui est compliqué aujourd'hui, ce qui va apporter l'innovation, c'est quand même le côté, c'est comme souvent les startups hein, à ce niveau-là, c'est pas les grands cabinets qui sont référencés par l'éducation nationale, etc., qui vont aller vers là. Donc quand tu es une startup, il faut te dire que un cycle de vente éducation nationale, tu connais ça mieux que moi, c'est un an. Donc il faut avoir les reins solides à tenir un an. Moi, j'ai des cycles de vente de 3 mois. Déjà, c'est pas ultra court. Donc, c'est pas évident quand tu te lances d'aller vers là. Il y a beaucoup de startups. Hein. Je suis dans beaucoup de collectifs de startups RH et j'ai présidé certains bandes d'assos à ce niveau-là. Et on a vu beaucoup de morts sur le chemin à cause de ça. Maintenant, il y a des changements. Il y a un très beau projet là qui s'appelle Bien à l'école, qui date d'il y a 2 ans, je pense, où il fallait répondre c'était un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale, et donc il fallait répondre par un consortium ou autre. C'est sur le décrochage scolaire, donc sujet extrêmement intéressant. Et là, on est plusieurs startups à avoir pu répondre, et donc il y aura, du coup, je peux te le dire, une application pour l'Éducation nationale à disposition par ce type de projet. Après, est-ce que ça va vraiment s'étendre complètement et être utilisé, systématisé ou autre, je ne sais pas. Mais Pour reprendre ta question, les freins, bah, il y avait, je t'ai dit, le cycle de vente qui est vraiment très long. Le côté administration était quand même compliqué. Là, j'ai l'impression que y a une prise de conscience et ça se dénoue un petit peu. Ça va prendre un petit peu de temps, à ce niveau-là. Mais sinon, le matériel, je ne pense pas que ce soit un vrai sujet. Et là, surtout, la volonté des élèves et des professeurs, ce n'est pas non plus un frein, je pense pas.
Ok, super clair. Donc, bah, espérons que ça s'améliore dans les années à venir.
Ouais,
Et en
croisons-nous.
parlant d'années à venir, enfin, sauf si je me trompe, hein, vous avez levé 8 millions récemment. C'est bien ça, je ne me trompe pas sur le montant.
C'est ça.
Pourquoi quasiment 10 ans après le lancement de
C'est vrai.
Bidiz, si je ne me trompe pas, quand on dit fort, c'est quand même, parce qu'on a toujours à l'esprit les startups qui lèvent des fonds assez vite. Vous avez l'air de bien marcher si vous êtes encore là après 10 ans. Pourquoi prendre cet argent maintenant et pourquoi faire surtout?
C'est les deux questions importantes. Bah pareil, je te fais un petit peu les coulisses, comme ça tu sauras tout. Quand on monte Bidiz avec mes associés, on voit assez vite qu'on est dans un secteur où ça lève beaucoup et à notre sens un peu trop. C'est-à-dire que voilà, tous nos concurrents ont levé tout de suite beaucoup d'argent. Et donc, voilà, c'était assez étonnant enfin pour nous. Et nous, on fait un peu nos calculs, très simplement, en mode entrepreneur basique, quoi. Et on se dit, bah, en fait, nous, il nous semble possible d'arriver jusqu'à la série A sans lever de fonds. En disant, voilà, on marche par palier de rentabilité, on s'autofinance. Alors, on n'a pas, nous, injecté des millions dans la boîte au début. Hein. Personnellement, voilà, c'était le. Sortait, moi, ça, c'était, je sortais de mon premier ou deuxième job. On a mis quelques milliers d'euros sur la table chacun, c'est tout. Donc, vraiment, on a fonctionné sur cette logique de se dire, OK, on signe ce client-là. Qu'est-ce qu'on peut se permettre comme embauche après? Et trimestre par trimestre, on a gravi des choses comme ça. Et puis, on voyait que ça marchait parce qu'en fait, on gagnait régulièrement des appels d'offres ou autres face à justement des concurrents qui, eux, avaient levé des millions, des dizaines de millions, parfois des centaines de millions d'euros. Et ça, c'était assez grisant. Et donc, Paris. On va dire pari gagné à ce niveau-là. Et pourquoi on s'était dit jusqu'à la Serie A? Parce qu'après, on faisait aussi nos petits calculs en se disant, bah, à partir de là, si tu veux vraiment passer un step, quoi, si tu veux vraiment aller grossir à l'échelle, là, ça devient intéressant d'aller financer. Par contre, tu as déjà, du coup, travaillé ta rentabilité. Nous, on voulait déjà se dire, OK, on a tous nos ratios de rentabilité qui sont là, on sait créer de la valeur, on sait créer de la rentabilité. Et après, on peut injecter. Là où on voyait peut-être nos concurrents faire un peu l'inverse, dire on va injecter, injecter, et puis à un moment donné, on rattrapera la rentabilité. Peut-être que ça marche, mais nous, ce n'était pas dans notre philosophie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, bah, avant, du coup, on n'était pas très intéressant pour des fonds parce qu'on était rentable. Moi, j'ai vu deux, trois. Alors, on n'a pas cherché beaucoup, mais on a eu évidemment deux, trois points de contact. Et puis, c'était rigolo dans les rendez-vous parce qu'il y avait cet aspect. Ah mais super ce que vous faites, etc. Bon, par contre, vous êtes rentable et vous faites pas 100 millions dans 2 ans, donc du coup, pas très intéressant. Et je pense qu'il y a eu un basculement
Il y a clairement eu un basculement dernièrement, ça
dernièrement,
c'est
exactement.
sûr.
Et nous, ça coïncidait au moment où du coup, on arrivait en position de pouvoir faire des séries A, que je sais quand tu as fait un certain chiffre d'affaires, on va dire, et un certain chiffre d'affaires récurrent surtout. Et donc, bah, du coup, on regarde un petit peu. Et là, ouais. Certains, même fonds qu'on avait vus plusieurs années auparavant, nous disaient, ah oui, mais là, vous êtes rapide, mais rentable en même temps, donc c'est ça qu'on cherche maintenant. Et du coup, c'était plus. Je discutais avec un ami qui a un peu la même vision que moi, il me disait, en fait, avant, les gens cherchaient des licornes, et maintenant, ils cherchent des chevaux de course, qui vont vite, mais qui existent, en fait, à ce niveau-là. Et donc, ouais, nous, on a bénéficié de ça. Ça nous a permis de choisir avec quel fonds travailler. On a eu cette chance-là aussi d'avoir plus de propositions sur la table que de place, on va dire, au capital, parce qu'on ne voulait pas non plus aller lever plus de 8 millions. Et ouais, hyper confortable. Du coup, on a pu aller chercher des fonds qui sont plutôt tournés vers l'impact, qui est important pour nous. Après, je me dis, vu le nombre de messages LinkedIn que j'ai reçus après derrière, d'entrepreneurs qui me disaient, ouais. C'est super, on n'avait pas vu ce genre de boîte avant. Moi, je me reconnais vachement là-dedans. Je ne suis pas dans le modèle hyper cash burner qu'on peut voir. Et du coup, je me sentais un peu tout seul. J'ai l'impression qu'on est un peu chef de file, ou qu'en tout cas symbolique de ce qui peut se passer à partir de maintenant dans les prochaines levées. Et j'espère que ça va continuer, en particulier pour notre secteur. Voilà, que les investissements vont se tourner vers des boîtes qui ont d'abord réglé le problème de la rentabilité avant de régler le problème du financement et de l'hypercroissance.
Et alors, pourquoi faire? Vous allez en faire quoi?
Faire, oui, bah, bonne question. Très simple. Encore une fois, moi, je crois beaucoup à la simplicité dans l'entrepreneuriat. Vu qu'on a bien travaillé nos ratios de rentabilité, on sait 1 euro d'investi, ce que ça rapporte en client. Et donc, on a une machine commerciale qui est vraiment bien ficelée entre le marketing et les sales. On a fait jusqu'à présent, pour te dire, quasiment 100% d'inbound. Hein, donc, on chassait très peu et on avait quasiment que de l'entrant, du bouche à oreille ou autre. Et donc, aujourd'hui, bah, on va investir là-dedans pour se dire, OK, si on investit 1 euro, ça rapporte tant de clients derrière. Donc, on va accélérer à ce niveau-là commercialement. Deuxième axe, on est une boîte tech. On adore améliorer le produit, rajouter des choses. Dernièrement, évidemment, il y a eu l'IA générative qui nous a fait encore passer un palier. Donc, on va continuer à faire de la tech. On a toujours fait beaucoup plus de produits qu'autre chose. On croit beaucoup à ce que le produit puisse convaincre par lui-même, le client et surtout l'utilisateur final. Donc, il y a beaucoup d'innovations, plateforme globale, les spécificités, encore une fois, pour le terrain, en écoutant le terrain, ça va être aussi hyper important. Et dernier axe, on va aussi je vais en dire deux. Il y a une accélération à l'international parce qu'on a la chance, nous, d'avoir toujours eu à peu près 20% de nos users finaux qui sont à l'étranger. Donc, c'est une solution qui marche bien aussi à l'étranger, Bidiz. Mais on n'a jamais fait d'action commerciale particulière. On n'a pas de bureau à l'étranger, on n'a pas de commerciaux qui sont dédiés à un pays ou autre. Donc, il y a une accélération aussi, un peu d'investissement côté international, plutôt à l'échelle européenne d'ailleurs. Et puis il y a la transfo, on est aussi de plus en plus connecté aux entreprises qui veulent se transformer et qui nous disent bah, je me transforme mais j'arrive pas à embarquer le terrain. Et visiblement vous savez faire vu les taux d'engagement que vous avez. Donc on se connecte aussi plutôt par côté transfo. Voilà, c'est ces quatre axes là qui vont être des pistes d'investissement pour la suite.
Génial. Et bah écoute, c'est hyper intéressant. Je commence à avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais évoquer. Ce que je te propose, parce que je vois le temps qui file, c'est qu'on passe aux questions de la fin, si ça te va. Et on va commencer avec la première, donc, qui est la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi?
C'est loin. C'est loin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais je vais quand même faire l'exercice. Je pense qu'il y a, enfin, j'espère qu'il va y avoir un énorme progrès sur le format. Format de la formation, sans vouloir faire de jeu de mots. Je pense qu'on est toujours très en deçà, globalement, je mets tout le monde dans le même panier, de ce qu'on devrait faire en termes d'arriver à être hyper captivant en termes de format de formation. On se doit d'être les meilleurs pour arriver à capter l'attention, et plus ça va aller dans les générations, plus ça va être hyper important. Sinon, les gens vont trouver ça tellement en dessous de ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie digitale, entre guillemets, personnelle, qu'ils jamais ils vont venir se former. Donc, le côté arriver à capter les gens par le format, et des formats qui sont à la hauteur de ce que les gens vivent dans leur, encore une fois, dans les applications ou solutions tech perso qu'ils utilisent, ça va être vraiment important. Donc, je crois beaucoup là-dessus, et je pense que les boîtes qui vont réussir là-dedans, elles vont gagner les marchés, et les autres vont s'écrouler. Je pense aussi qu'elles vont être éminemment plus participatives, les formations. Ça se fera beaucoup plus en communauté que descendant comme actuellement. Il y aura toujours évidemment du descendant un peu formel, mais la base du fait que les gens puissent apprendre ensemble, se challenger et puis même co-construire du savoir, c'est vraiment pour moi, si dans 10 ans on n'y est pas, on est passé à côté de quelque chose de vraiment important. Donc je pense que voilà, que ce soit par les boîtes comme nous qui le portons ou parce qu'ils passera par les collaborateurs eux-mêmes, on va aller vers là. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre entre les centaines d'idées que j'ai sur ce sujet? Je ne vais pas tout dire, mais il y a quand même un mouvement vers l'autonomisation de l'apprenant et la responsabilisation. On a été quand même beaucoup dans des domaines, énormément en France, un peu moins dans les autres pays, je te dis que tu dois te former sur ça. Versus maintenant, bah, tu es responsable de ta formation, c'est toi qui dois te former et tu as accès à des choses pour le faire. Le CPF a commencé à aller vers là. Bon, il y a des changements en ce moment un peu sur le CPF, mais ce côté, ouais, je suis autonome et tout m'est un peu ouvert et c'est à moi de faire mon chemin, avec des guides évidemment, mais moi, ok, c'est ça que tu dois apprendre parce que tu es dans tel domaine et blablabla. Je pense qu'on va aller vers ce côté-là. Et sans doute moins théorique aussi. Je pense qu'on va avoir des combinaisons plus fortes dans l'avenir de formations théorique et de formation pratico-pratique, et que c'est la combinaison de ces deux choses-là qui vont faire des choses intéressantes. Et on va moins cloisonner les deux. Voilà, le côté savoir très abstrait, soft skill, etc. Et versus comment je nettoie une machine, je sers des boulons, etc. Donc je pense qu'il y a ça dans les 10 ans. Entre autres, des milliers de choses. Hein, mais,
entre autres, mais c'est déjà pas mal. On va commencer par ça. Est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis particulièrement dans l'univers de la formation ?
Alors, je suis beaucoup mes top clients qui m'ont fait grandir. Mais bon, ils n'ont pas de. Je les suis parce que je les appelle directement et je vais les voir. Mais dans les gens que je vais suivre, moi, je conseille. J'ai été très inspiré, je suis encore très inspiré par un monsieur qui s'appelle Vincent Fayet, qui est un professeur, professeur de SVT, dans un lycée, et en fait qui a complètement bousculé son modèle d'apprendre au sein de sa classe. Il a fait un TED, allez voir, ça s'appelle Vincent Fayet, on pourra mettre le lien, peut-être.
On pourra mettre le lien, tout à fait.
FAI2LET. Et c'est un super prof que j'aurais adoré avoir, qui est venu du coup chez Bidiz nous expliquer un peu ce qu'il faisait. C'est ça qui nous a fait aller beaucoup nous vers l'apprentissage en communauté, l'apprentissage participatif. Mais en gros, il a pris un modèle des années 1800 qui s'appelle l'enseignement mutuel, où les élèves s'enseignaient des choses entre eux, mais avec une méthode vraiment particulière. Il l'a modernisé complètement pour créer la classe mutuelle, et il fait en sorte que sa classe, les gens... voilà, si vous voyez un peu ce qu'il propose, cette classe, c'est assez étonnant. Il fait 10 minutes de cours conceptuel et après, le reste du cours, c'est les élèves qui peuvent s'expliquer des choses entre eux. Ils ont des tableaux partout dans la classe pour écrire. Mais c'est toute une méthode. Voilà, c'est très difficile à expliquer là, mais Vincent Fayet, hyper inspirant, TED sur le sujet. Donc faut aller le voir. Enfin,
On mettra le TED, ouais. Le TEDx ou TED directement dans la description. Ouais. Est-ce qu'il y a un outil plutôt digital que tu as envie de partager aujourd'hui ?
Moi je suis assez c'est une bonne question, je suis assez utilisateur de nos propres outils, donc voilà, dès que j'ai des connaissances à transmettre ou que je veux retenir quelque chose ou autre, je passe toujours par Bidiz. On a notamment une logique qu'on appelle les tips qui permet de capter hyper vite un savoir, que ça soit sur une page web ou que ça soit un geste météo, donc j'utilise énormément ça, pas de manquer, j'utilise assez peu de choses. Cela dit, si je dois, dans les trucs que j'ai découvert récemment, que je commence à creuser, il y a un truc qui s'appelle Obsidian qui m'a fait un peu tilt. C'est de la logique un peu de second cerveau, je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. En fait, c'est tu crées des petites notes en fonction de ce que tu lis ou de ce que tu apprends et tu fais des liens entre eux. Et ça te permet d'avoir, en créant des liens logiques entre plein de choses, ça te permet de créer plus facilement des posts sur les réseaux sociaux ou d'écrire des livres, etc. Il y a tout un monde derrière. Franchement, le logiciel, j'ai commencé à l'ouvrir et à l'utiliser. Il est pas du tout, je trouve, user-friendly, mais l'idée qu'il y a derrière, elle est assez belle.
Donc, l'idée est sympathique de se dire, pose en tout cas quelque part tout ce que j'ai à l'esprit.
Ouais, tu connaissais, okay. Ça te dit quelque chose?
Ouais, je connaissais effectivement aussi.
Je sais pas si j'ai bien décrit le truc, mais...
je suis pas fort utilisateur, mais le principe est effectivement intéressant et j'étais pas forcément non plus convaincu de l'interface, donc tu rejoins un petit peu là-dessus.
On croit peut-être Bidiz fera des trucs comme ça plus tard. mais l'idée du logiciel, elle est incroyable.
Ok. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet?
Ma table de chevet est une pile de livres. J'en ai plein là-dessus. Ce que je peux conseiller du moment, alors peut-être du moment et puis celui sur lequel je reviens souvent, il s'appelle L'éloge du carburateur. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce bouquin. C'est de Matthew B. Crawford, un truc comme ça. Alors, son histoire est incroyable aussi. C'est un chercheur américain, plutôt je crois en sociologie ou autre, qui était dans un think tank vachement réputé ou autre. Et en fait, il est déprimé et il a démissionné et il est parti ouvrir un garage de réparation de motos, vintage, je crois.
Okay.
Et en fait, tout son livre, c'est à la fois un essai un peu sociologique et en même temps, il raconte un peu sa vie et il montre à quel point on a ostracisé les métiers manuels et pourquoi on a eu tort et à quel point lui, quand il pratique un métier manuel, ça a du sens, ça développe ses facultés intellectuelles et que il ne faut pas séparer les deux, il ne faut pas rentrer dans une logique de métier de complètement d'abstraction.
Ah bah c'est... Évidemment... C'est pas pour rien qu'on voit qu'il y a 20% des grands diplômés, même enfin, de grandes écoles, qui vont retourner vers un métier manuel sous 5 ans après leur diplôme. Ce qui est assez fou. Alors qu'ils ont investi des années et des milliers d'euros, en général, dans les études.
Exactement.
Donc, il faut qu'on en parle.
Donc, ce livre, il est top pour ça. Il est plutôt écrit simplement. Donc, je vous conseille celui-là. Et en plus, roman que j'ai fini dernièrement, il y a Humus. Gaspard Koenig, c'est mon côté plus littéraire. C'était un des finalistes du prix Goncourt, si je dis pas de bêtises, de l'année dernière. Et c'est l'histoire de deux amis qui ont fait des études d'agronomie, mais voilà, très très haut niveau, AgroTech, un truc comme ça, à Saclay. Et en fait, qui vont revenir, qui vont se passionner pour les vers de terre. Et ils vont avoir chacun un destin différent. L'un va être vraiment dans un côté très ferme, retour à l'ancienne, écologie, etc. Et l'autre va être plutôt sur de la start-up de vermicompostage, etc. C'est ultra bien écrit et c'est sur fond de révolution écologique. J'ai adoré ce bouquin. Donc rien à voir avec Bidiz, mais s'il y a un autre, c'est vraiment un roman. Je conseille celui-là.
Merci pour le partage. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver plutôt digitalement, je suppose?
Alors, en physique, sinon à Bastille, nos bureaux sont là, si jamais les gens veulent passer. Et sinon, sur LinkedIn, sur mon nom, vous pouvez trouver. Et sinon, en passant par le site bidiz.com, si c'est plus la partie produit que personne qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'on fait. Mais sinon, essentiellement LinkedIn.
Parfait. Julien, merci beaucoup d'être passé dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode?
Bravo pour le boulot. Franchement, on en discutait avant de commencer, mais avoir une plateforme comme la tienne où les entrepreneurs plutôt formation, éducation peuvent s'exprimer, où les choses sont pas silotées entre les différents domaines, je trouve ça vraiment bien.
Ouais, moi, je fais pas grand chose, hein, c'est toi qui parles.
On mérite de le faire exister. Donc, faut poser les bonnes questions, c'est toute une science. Mais c'est plutôt ça.
Écoute, merci beaucoup, et sur ces sympathiques paroles, je te souhaite une très bonne journée, très belle formation, et à bientôt.
Ça marche, merci Elliot.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.